RFI, grand reportage.
Alexis Guilleux.
Bonjour à tous. Grand reportage en Guyane. Après avoir documenté avec des scientifiques brésiliens la présence d'un récif corallien au large de l'embouchure du fleuve Amazon au Brésil, l'ONG écologiste Greenpeace a envoyé son bateau, l'Esperanza, en Guyane pour une deuxième campagne de recherche. L'objectif, c'est de vérifier si le récif corallien, surnommé le récif de l'Amazone, qui vient d'être découvert au Brésil, est également présent dans les eaux territoriales françaises de Guyane. Un enjeu important pour la connaissance scientifique et écologiste dans une zone sollicitée au Brésil et en Guyane, puisque des compagnies pétrolières ont déjà fait l'acquisition de concessions dans ces eaux et sont actuellement en attente d'autorisation pour se lancer dans des phases d'exploration. À bord de l'Esperanza sur le récif de l'Amazone, c'est un grand reportage d'Arnaud Jouve.
Dégrade des Cannes, port de Cayenne, 23h. Sur la passerelle de l'Esperanza, l'un des trois gros bateaux de Greenpeace, le capitaine et son équipage sont à la manœuvre. La passerelle est dans l'obscurité. Seuls les messages radio percent la nuit dans laquelle l'Esperanza s'enfonce pour rejoindre la mer libre. Nous partons pour 6 jours dans les eaux territoriales guyanaises. Objectif, explorer les fonds le long de la rupture du plateau continental sous-marin à plus de 150 km de la côte pour voir si le récif corallien profond découvert au large de l'embouchure de l'Amazone au Brésil existe aussi juste à côté, sur le littoral guyanais. Nous sommes 37 à bord et plus de 10 nationalités différentes. Tous sont Greenpeace, à part 4 scientifiques brésiliens, 2 journalistes et 3 techniciens de la société Rovco en charge de la manipulation du ROV, le robot sous-marin. Chacun a une fonction précise, le temps est compté et les journées sont bien chargées, comme l'explique Sophie, la chef des opérations de Greenpeace.
Alors ma journée type, moi c'est lever environ à peu près vers 4h30 du matin pour aller faire le check météo avec le capitaine pour voir si le plan qu'on a monté pour la journée, on le revoit à zéro. Si la météo n'est pas clémente, on garde le plan convenu qui est en général donc de faire du sonar ou bien des prélèvements et de la vidéo pour la journée. Donc à 6h du matin, on est calé, on sait ce qu'on fait. Et donc à ce moment-là, on va pouvoir réveiller l'équipage et notamment les deckhands pour qu'ils viennent sur le pont travailler avec
les deckhands qui sont ceux qui interviennent, qui font les manœuvres à bord du bateau.
Voilà, c'est ceux qui font les manœuvres à bord du bateau, c'est vraiment les petites mains du bateau qui sont pour le coup ont des gros bras et qui nous permettent de mener à bien toutes ces activités puisqu'ils sont entre 5 et 6 à chaque fois à dérouler les opérations dans la journée. Ouais.
Et la journée, elle s'arrête à quelle heure?
Alors la journée, elle finit par un dernier point, on va dire, de préparation des activités pour le lendemain qui est à 7h, où là on se retrouve avec le capitaine, le chargé de campagne et puis la lead scientifique et on discute des opérations du jour du lendemain. Et puis ensuite on a une dernière réunion où là on est tous ensemble, on appelle ça la réunion campagne, où là on a aussi les journalistes, on a aussi les chargés de communication, etc. Et où on se dit un petit peu ce qu'on va faire pour le lendemain, on se cale bien sur toutes les activités. Donc la journée elle finit, on va dire, vers 8h du soir.
Ça fait des bonnes journées.
Ça fait des très bonnes journées, oui.
Depuis tôt ce matin, les deckhands, qui sont en majorité des jeunes femmes de Greenpeace, s'activent sur le pont pour mettre à l'eau différents appareils de mesures scientifiques. François Chartier, le responsable de la campagne, suit les opérations. Je le retrouve.
Salut François.
Ça va?
Ouais, très bien.
Bien dormi?
Ouais.
Alors là, on vient de mettre à l'eau le sonar à balayage multilatéral. En fait, donc c'est un appareil qui descend proche du fond de l'océan et qui nous permet de faire une cartographie en 2 dimensions du fond. Et ça va nous permettre de repérer, le cas échéant, s'il y a des structures plus solides, à contrario d'un fond sédimentaire ou vaseux mou. Et c'est sur ces structures qu'on pourra ensuite essayer de retrouver le récif par la suite.
D'accord. Donc là, le bateau a repéré cette zone qui est potentiellement intéressante pour justement envoyer le sonar.
Alors avant d'envoyer le sonar, on a fait en fait ce qu'on appelle un transect, c'est-à-dire qu'on a fait des lignes parallèles avec le navire et on a observé la profondeur et d'éventuels changements significatifs et rapides de profondeur, ce qui signifierait un relief plus dur. On a fait ça une grande partie de la matinée et on a repéré 2 points et maintenant donc on fait des lignes beaucoup plus courtes, beaucoup plus rapprochées aussi avec le sonar.
Et là, ce qu'on voit à l'écran, hein,
Ce qu'on voit à l'écran, en fait, c'est la modélisation du fond marin par le sonar. En fait, c'est un système acoustique, hein, donc c'est l'écho du sonar qui permet, selon la densité, la qualité du fond, de différencier la nature de ce fond marin, justement.
Et là, pour l'instant, on a des confirmations, on a quelque chose?
Non, là, donc c'est la première ligne à contraste avec le sonar, et on est pour l'instant en train de regarder ce qu'on peut trouver. On n'a pas encore pour l'instant de confirmation qu'il y a un substrat qui serait proposé à la présence du récif.
Et rien qu'avec le sonar, on peut déjà attester de la présence du récif, ou on a besoin d'envoyer des engins?
Non, le sonar va sophistiquer. Voilà. Le sonar, il va nous permettre en fait de cartographier la nature du fond, donc de repérer les zones qui sont propices à la présence du récif. Et après, il faudra descendre avec soit le robot, ce qui n'est pas gagné aujourd'hui avec la météo, soit avec la caméra pour visuellement confirmer ou non la présence du récif.
Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. On sonde, on prélève, on filme. Mais tout le monde attend le moment où l'on pourra mettre le ROV, le robot sous-marin, à l'eau sur un des principaux spots. Mais l'opération est plusieurs fois reportée à cause de la violence des courants sous-marins. On n'est pas très loin de l'embouchure de l'Amazone. Enfin, une fenêtre météo plus clémente se présente. La nouvelle fait le tour du bateau. On met le ROV à l'eau. Je rejoins Mélanie et Sophie sur le pont arrière pour assister à la manœuvre.
Là, le ROVCO, la machine, elle vient de se lever. Donc le bras articulé est en train de basculer vers l'océan. Là, il se met dans l'axe. J'ai l'impression qu'avec le bras articulé, ils mettent le robot bien dans l'axe pour qu'il descende bien... dans l'axe, dans l'océan. Voilà, là, ça bascule.
Là, pour l'instant, ils l'ont décollé du bateau.
Ouais.
Et là, il est en train de passer par-dessus bord.
Voilà, c'est un bras articulé qui, du coup, se détend de l'autre côté du bateau, vers l'océan. Et le robot est dans ce bras articulé et donc va descendre dans l'océan. C'est impressionnant.
Alors là, on est en train d'essayer de stabiliser le bateau. Donc il y a toutes les machines là qui sont en route, les moteurs, pour essayer de faire le moins de vagues possible pour la mise à l'eau du ROV. Donc là, il y a la grue du ROV qui a basculé de l'autre côté. Et puis la cage avec son robot dedans qui attend au-dessus de l'eau le top départ.
Hello again, you can set the pole one more time, please.
Thank you.
Put the pole on there and secure it. Thank you.
Bridge next, cross to put the pole back.
Thank you.
Bridge, RV, copy that. Stopping operations.
Thank you, RV. Yeah, copy that.
Là, la mission est avortée. On va remettre le ROV sur le bateau. Pour l'instant, on peut pas le mettre à l'eau. J'ai pas plus d'informations.
Grosse déception. Les moteurs n'ont pas réussi à stabiliser suffisamment le bateau et l'opération est définitivement annulée. L'Esperanza est un bateau à l'origine qui a été acheté aux Russes pour faire la course aux chasseurs de baleines à travers les océans. C'est un bateau puissant et rapide, mais qui ne possède pas de moteurs latéraux comme les bateaux spécialisés pour la recherche. Mais malgré cette déconvenue, les bonnes nouvelles pour les scientifiques s'accumulent. Et bien que l'info soit sous embargo jusqu'à notre retour à Cayenne, tout le monde sait à bord que l'expédition a réussi. Les scientifiques estiment qu'ils ont suffisamment d'éléments pour confirmer la présence d'un récif corallien profond dans les eaux guyanaises. Ils confirmeront plus tard qu'il s'agit du même récif que celui découvert au large du Brésil. Comme l'explique Gisèle Duarte-Garcia, la responsable des scientifiques du bord, professeure à l'Université fédérale de Rio au Brésil.
Oui, on peut l'affirmer parce qu'on a trouvé des structures de carbonate et des espèces de poissons particulières qui indiquent fortement la présence d'un récif ici. On sait qu'il y a une zone très vaste dans l'océan Atlantique qui subit l'influence de ce qu'on appelle le courant de l'Amazone. Cela apporte beaucoup d'éléments carbonés, d'hydrogène, ce qui favorise la formation d'organismes tels que des coraux, des éponges, des bâtonnets. Ce sont des éléments qui, nous le croyons, n'auraient pas pu se trouver là autrement, car ils ont besoin normalement de plus de lumière et les récifs sont en général peu profonds. Donc ce que nous avons ici, c'est une nouvelle illustration qu'on a appelée le grand récif du fleuve Amazone. Maintenant, On sait que la zone est 5 à 6 fois plus grande que ce qu'on supposait au départ. Il y a plus de 56 km carrés avec des espèces et des poissons différents. Et on sait que cette zone va jusqu'au bord de la Guyane.
Un travail scientifique que commente Serge Plane du CNRS qui a suivi les travaux réalisés à bord de l'Espéranza.
C'est un travail un peu pionnier, c'est un travail de découverte, c'est un travail qui a permis finalement d'amener des images, d'amener une découverte un peu d'un écosystème original, d'un écosystème un peu unique, dans un endroit où on le découvrait, avec ici montrer que notamment il y avait une continuité sur la Guyane et probablement d'ailleurs une continuité le long du plateau continental en remontant plus au nord. Donc vraiment un travail intéressant parce que c'est les premières observations quelque part de cet écosystème avec ses bioconstructions originales qu'il va falloir maintenant aller plus en profondeur décrire. Ce qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas un récif corallien tel qu'on les imagine, c'est-à-dire un récif comme les récifs de la Grande Barrière ou les récifs que l'on imagine dans le Pacifique. On est sur une bioconstruction qui forme des structures calcifiées. Donc c'est comme un récif corallien en tant que tel, mais les organismes qui construisent, c'est plutôt des rhodophytes, c'est plutôt des algues, c'est peu de corail en lui-même. Finalement, c'est des constructions qui sont lentes, beaucoup plus lentes, mais ça fait des amas de structures calcifiées sur lesquelles viennent se fixer beaucoup d'espèces, des éponges, différents organismes filtreurs, et qui créent un pôle de biodiversité assez remarquable parce que ce n'est pas un endroit où on penserait qu'il y aurait un développement de ce type-là, parce qu'on est finalement dans la grande zone de l'arrivée de l'Amazone, avec des eaux qui sont très turbides et de l'eau douce en grande quantité. Donc ce n'est pas là où on imaginerait finalement qu'il y ait une production forte en termes de développement d'un substrat au fond avec une calcification importante. Mais vraiment un développement original, peut-être de l'endémisme. Ça va dépendre principalement de l'endémisme, de à quel point cette zone, du fait de cette courantologie, du fait de l'environnement amazonien autour avec ses eaux douces et très chargées en alluvions qui arrivent, est-ce qu'elle a été un peu isolée ? Finalement, elle s'est retrouvée un petit peu isolée, ou est-ce qu'on est dans un système qui, au contraire, permet beaucoup de connectivité entre le nord, donc l'axe du sud des Antilles, et puis le sud, la zone récifale que l'on retrouve notamment au niveau de Recife et du nord du Brésil.
Est-ce que c'est un écosystème fragile ?
C'est un écosystème qui a une certaine fragilité parce qu'il est quand même limité dans l'espace. Ce n'est pas déjà un écosystème qui est très important et très grand à l'échelle, je dirais, de la planète. Donc, de fait, il peut être limité par rapport à une pollution, par rapport à un problème local. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un écosystème qui est nouveau. Et c'est cet assemblage, cette combinaison d'espèces et de comprendre, d'une part, comment elles vivent ensemble, d'autre part, si là-dedans, effectivement, on a des formes et des espèces nouvelles, c'est le challenge à venir maintenant. La première des choses, ce sera de travailler conjointement avec les Brésiliens parce qu'on est vraiment sur au moins, je dirais, les deux pays qui vont être les plus impactés, je dirais, les plus concernés par cet écosystème. Maintenant, il faut aller dans la deuxième étape qui est d'aller échantillonner. Et donc ça, c'est la mise en place de programmes scientifiques avec les organismes de recherche en France et en collaboration avec les structures au Brésil.
Est-ce que c'est vraiment inconciliable d'à la fois faire de la recherche scientifique et de la prospection pétrolière ? Est-ce que vous, ça vous paraît conciliable ?
La recherche, je dirais scientifique, et la connaissance d'un écosystème et la juxtaposer avec effectivement de la recherche pétrolière ou de l'industrie pétrolière, c'est pas forcément l'idéal parce que il peut y avoir des interactions, je dirais négatives. Maintenant, c'est pas impossible non plus. Le pétrolier peut vouloir savoir avec précision finalement l'environnement dans lequel il est, l'environnement qu'il y a autour, dans un contexte de pouvoir réellement évaluer un possible impact de son activité pour après décider que finalement c'est une activité qu'il ne va pas développer parce que l'impact risque d'être trop dégradant. Donc il n'y a pas forcément une incompatibilité en termes de recherche avec, je dirais, une liaison avec un industriel sur le développement. L'important, c'est de travailler en concertation. L'important, c'est de ne pas faire l'un avant l'autre et, je dirais, et d'aller peut-être trop vite dans de l'exploitation avant de connaître réellement l'environnement dans lequel on est.
De retour à terre, après plusieurs semaines d'attente, le groupe pétrolier Total, engagé dans un processus de recherche et d'exploitation sur cette zone, accepte de répondre à mes questions. Il me confirme qu'ils ont déposé une étude d'impact qui sera entièrement consultable, qu'une enquête publique va démarrer et qu'à son issue, le gouvernement statuera pour donner ou non l'autorisation de passer en phase d'exploration. Que le premier puits envisagé sera fait à une trentaine de kilomètres de la zone récifale par 2000 mètres de fond et que tout cela a été parfaitement documenté scientifiquement, notamment par la société Créocéan en présence de chercheurs du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Je décide donc d'appeler Éric Dutrieux, responsable de cette opération à Créocéan, au téléphone. Oui, bonjour Éric Dutrieux.
Oui, bonjour.
Oui,
c'est moi-même.
Bonjour Arnaud Jouve, RFI.
Oui, bonjour.
Pour rentrer dans le vif du sujet, Créocéan a participé à une ou plusieurs missions en mer au large de la Guyane pour Total en 2017.
Tout à fait. On a mené une campagne de 50 jours à peu près, qui était divisée en trois parties en fait. Une partie qui était destinée à explorer les grands fonds autour de 2500 mètres à l'endroit où Total s'attend à faire son point de forage, donc aux alentours de ce point de forage. Et puis deux autres parties de la campagne destinées à décrire un banc rocheux qui se trouve à la limite du plateau continental dans des fonds de 100 mètres, à quelques dizaines de kilomètres à vol d'oiseau, enfin en surface du point de forage.
Est-ce que vous avez observé l'existence d'un récif corallien ?
Alors, pas du tout. Ce n'est pas un récif corallien. On peut peut-être imaginer qu'il y a quelques dizaines de milliers d'années, voire centaines de milliers d'années, cette zone rocheuse a fleuré à la surface et a été élaborée par des coraux, puisqu'on retrouve de la roche typiquement carbonatée, c'est-à-dire calcaire. Mais aujourd'hui, c'est un récif qui ne comporte plus de coraux, à part quelques petits coraux solitaires complètement dispersés. Donc ce n'est pas un récif corallien.
Donc, récif corallien ou pas récif corallien. En tout cas, la découverte brésilienne n'est pour l'instant pas prise en compte par l'industriel qui ne croit pas à l'existence de ce récif corallien et qui a déjà remis son étude d'impact. Pour les écologistes, comme l'explique François Chartier, l'intérêt écologique et scientifique doit primer sur l'exploitation industrielle.
Ce que nous avons découvert lors de ces six jours d'expédition scientifique, c'est que le récif de l'Amazone est bien présent dans les eaux guyanaises. On a trouvé des constructions récifales, on a trouvé un certain nombre d'éléments qui nous permettent de prouver la présence de ce biome totalement unique et nouveau ici en Guyane. Alors pour nous, c'est une bonne nouvelle pour la biodiversité, c'est une excellente nouvelle pour la science. C'est un nouveau biome unique, c'est des constructions qu'on n'a jamais vues de cette manière-là. C'est également une mauvaise nouvelle pour Total, parce que ça veut dire aujourd'hui que la priorité, c'est la conservation, la protection de ces écosystèmes uniques, et non pas l'exploration pétrolière, non pas la course après une industrie du passé.
La France prendra-t-elle en compte la découverte des scientifiques brésiliens ? On ne devrait pas tarder à le savoir. À la fin de l'enquête publique, le gouvernement prendra sa décision. Since you came into my life, I've thought about her day and night. Never thought there'd come the day when I could confidently say to you, I'll never be lonely, I'll never be blue. I've given my heart away. What kind of fool are you? C'était à bord de l'Esperanza sur le récif de l'Amazone, un grand reportage d'Arnaud Jouve sur une réalisation de Pierre Chaffangeant. Since you came into your life, you've thought about a day and night. Never thought I'd see the day. You've been naive enough to say that you will never be lonely. You'll never be blue. You've given your heart away. Down this road before, and others standing by the score. Keep your wits about you, son. Don't be so sure that she's the one.